Bonjour à tous et bienvenue dans le goût du Moyen-Âge, la radio des médiévistes. Je suis Ilona, votre présentatrice, et aujourd'hui nous allons nous tourner du côté de l'archéologie. Pour ce faire, nous écouterons Victor David et Samuel Sainte-Marie-Gauthier, tous les deux en master de monde médiévaux à Poitiers. Ils nous parleront de l'étude des charpentes médiévales et modernes, l'une dans l'ancien prieuré du Bruy-Bellay, l'autre au palais de Poitiers.
Bonjour à tous. Mon sujet d'étude porte sur les charpentes anciennes, une discipline jeune et en plein essor dans l'archéologie du bâti. Car oui, si la méthode archéologique s'est élargie aux élévations en pierre dès les années 80 et s'est aujourd'hui systématisée, c'est encore loin d'être le cas pour les ouvrages parfois monumentaux de bois qui viennent couvrir ces élévations. Je me présente. Je m'appelle Victor David et je réalise un mémoire monographique qui porte sur une des charpentes de l'ancien prieuré du Bruy-Bellay. Ce prieuré grand-montain, situé aux confins du Poitou ancien en zone de marche avec l'Anjou, est fondé à la toute fin du XIIe siècle. Il arbore un plan type des prieurés de l'ordre de Grandmont. L'aile nord y est ainsi dédiée à l'église, l'aile est à la salle capitulaire et au dortoir, l'aile ouest et quant à elle composée de compartiments d'exploitation et ou d'hôtellerie, et enfin l'aile sud, et quant à elle dédiée à la cuisine et au réfectoire. C'est cette dernière aile qui est coiffée du comble que j'étudie. Comme nous allons le voir, la connaissance de la fonction de cette aile est cruciale pour comprendre son comble. Je ne vais pas m'étendre ici sur l'histoire du prieuré, en vue de mon temps limité. Cependant, un détail croustillant est apparu au fil des recherches qui peut être intéressant à mentionner ici. La charte de fondation originelle du prieuré semble avoir été volontairement perdue au cours du XIIIe siècle et remplacée par une autre. Selon toute vraisemblance, le prieuré a été fondé par Henri II en personne fin XIIe siècle. Cependant, lorsque son prieuré et son territoire passent sous la sphère capétienne, les frères semblent avoir jugé bon de se trouver une origine plus convenable et une nouvelle charte de fondation a été rédigée qui atteste que ce sont les seigneurs de Montreuil-Bellay, turbulents vassaux lorsqu'ils étaient sous la domination des Plantagenets, qui auraient fondé le prieuré. Comme dans toute étude archéologique, les sources historiques s'associent aux données de terrain et la phase de relevé a pu être amorcée au cours du M1 et aboutie en M2, sur la charpente du comble de l'aile sud. Ces relevés à échelle permettent de se concentrer pendant plusieurs heures sur les détails de la charpente qui sont parfois cruciaux pour la comprendre. La charpente que j'étudie ne date pas du XIIIe siècle. Les traces d'outils révélées, le système de charpenterie employé, la démarche d'espacement sous comble mise en place, le contreventement très développé ou encore les systèmes d'assemblage semblent montrer que ma charpente a été levée au plus tôt à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle. Pour un étudiant médiéviste comme moi, quelle déception! Cette charpente n'est pas inintéressante, elle est levée dans une période charnière entre l'époque médiévale et l'époque moderne, mais n'est-il pas possible de remonter un peu plus le temps? Attardons-nous sur d'autres détails. Un esselier avec une mortaise vide dont le traitement tranche avec le reste par là. Un blochet débité en quart de dos dont la section tranche avec ses homologues. Par ici, de curieux chevrons dont la section et l'écarissage dénotent. Certains bois de ma charpente sont réemployés d'un système plus ancien. Si vous n'avez pas compris tous les termes que j'ai employés, cela est tout à fait normal. Étudier les charpentes, c'est s'approprier un artisanat complexe et ancien qui a développé son jargon bien à lui et qui peut changer selon les lieux au sein d'un même pays. C'est aussi comprendre des aspects techniques, de la coupe au levage, qui nécessitent de se plonger dans des traités de charpenterie anciens. C'est parfois même s'improviser architecte, en s'appropriant des notions mécaniques comme la notion d'effort de traction, de compression ou de cisaillement, qui justifie la présence de tel ou tel élément raidisseur ou stabilisateur. S'intéresser au bois ne suffit pas pour étudier un comble. Les murs peuvent être tout aussi éloquents. Ainsi, si on s'approche de mon pignon, on peut se rendre compte que le comble, en tout cas au niveau des pignons, a été rehaussé. Et une ligne de mortier oblique me permet de déceler la trace d'un solin de couverture d'un état de toiture plus ancien. Le solin étant l'élément qui permet d'étanchéifier la liaison entre la charpente et le mur. Pour enregistrer les informations sur les parties hautes des murs, visibles dans le comble, et dans un souci de gain de temps, l'enregistrement se fait ici sur orthoimage, pratique de plus en plus répandue en archéologie du bâti. Enfin, la fonction de mon bâtiment en deux espaces, cuisine et réfectoire, induit un mur de refend pour les séparer, et une cheminée en lien avec la cuisine, qui induit la présence d'un conduit. Si l'on sait que ces éléments ont été grandement remaniés avec le temps, l'étude poussée des maçonneries permettra de trancher sur la présence ou l'absence de traces des états de cheminée ou de refend plus anciens. Tout n'est donc pas encore terminé au Bruybellet. Des questions sont encore sans réponse et peut-être le resteront-elles. Actuellement, je recherche des financements pour une étude dendrochronologique de ma charpente. Une méthode de datation qui peut permettre de dater l'abattage des bois à l'année près. Qui sait ? Cette étude pourrait confirmer certains points ou chambouler toutes mes certitudes.
Merci beaucoup Victor pour cette présentation très éclairante sur le priori du Bruybellet et surtout sur sa charpente. Vous avez parlé d'une discipline jeune. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ?
Alors, l'étude des charpentes en elle-même n'est pas forcément jeune. Viollet-le-Duc s'était déjà emparé de la question au XIXe siècle. Il s'est notamment intéressé au système à chevrons formant ferme, qui est un système typique du Moyen-Âge, un système de charpenterie typique. Mais c'est l'étude archéologique des charpentes qui est récente, archéologique à proprement parler. Cette discipline s'est développée avec le développement de la dendrochronologie, cette méthode de datation dont je parle en fin de présentation. Et c'est à partir de ces années 90 qu'on va avoir les premières grandes monographies sur le sujet, pour des régions comme la Normandie par Frédéric Epaux, l'Anjou par Jean-Yves Huneau, ou le nord de la France et la Belgique par Patrick Hofsemer, pour ne citer que.
Merci. Vous avez également donné beaucoup de mots de vocabulaire. Vous aviez dit que c'était très très compliqué de pouvoir tout comprendre dans cette présentation, même si vous l'avez plutôt bien expliqué. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les outils pour s'approprier les connaissances architectoniques nécessaires pour la discipline ?
Alors, donc pour ce qui est des termes, on s'appuie surtout sur un glossaire qui a été réalisé par les compagnons passants charpentiers du devoir. Qui s'appelle sobrement glossaire du compagnon charpentier et en fait qui nous permet d'avoir des définitions quand même claires et précises sur plus de 1200 termes de charpenterie. Pour ce qui est de la compréhension d'éléments techniques et architectoniques, on va parfois se tourner vers des traités de charpenterie anciens qui pour les plus anciens datent de la période moderne. Et enfin, on peut aussi discuter avec des charpentiers actuellement pour mieux comprendre pourquoi tel élément va permettre de stabiliser un effort, un tel effort ou raidir telle pièce pour combler une sollicitation. Voilà.
Et enfin, dernière petite question, comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser aux charpentes ?
Alors, mon intérêt pour les charpentes, il découle d'un intérêt pour le bâti en général, qui est né au cours de mes années de licence. Notamment, donc pour les charpentes en particulier, c'est apparu avec un cours qui était dédié en fait aux charpentes, un cours d'archéologie du bâti que nous avons eu en licence 3. À l'origine aussi, j'ai un intérêt pour le matériau bois qui a pu naître enfant quand vu que je viens d'un milieu rural, il nous arrivait de couper du bois en famille. Et c'est peut-être ce qui a déclenché cet attrait. Et après, de cet attrait est né un intérêt pour l'artisanat en lien avec le bois. Et de cet intérêt pour l'artisanat est né ce projet de mémoire.
Merci beaucoup Victor pour toutes ces réponses et pour votre présentation de manière générale.
Bonjour à tous, donc je suis Samuel Sainte-Marie-Gauthier, comme l'a dit Ilona. Je travaille sur une charpente, un comble pardon, moderne du Palais des Comtes de Poitiers. L'année dernière, j'étais en M1 Patrimoine et Musée, parcours HCP, Histoire, Culture et Patrimoine, et j'effectuais un mémoire sur l'église de Saint-Martin-des-Nandes, à quelques kilomètres au nord de La Rochelle, à l'embouchure de la Sèvre Niortaise. Donc c'est ma première année sur ce nouveau mémoire. Pourquoi le choix de ce thème ? Donc, comme Victor, j'étais en L3, donc spécialité archéologie. J'ai donc suivi le cours sur l'archéologie du bâti de Nicolas Proutot et un autre cours qui présentait les grandes thématiques de recherche possibles de prendre, de choisir l'année du master. Et il nous avait confié que le sujet des charpentes était peu pris globalement et l'étude aussi de la forêt. Et donc, du coup, c'était un sujet qui me plaisait depuis la L3. Et quand j'ai dû choisir un nouveau mémoire pour ce nouveau master, j'ai proposé à Nicolas Proutot de travailler sur ce sujet. Et donc, il m'a mis en contact avec Jean-Yves Huneau, qui est l'archéologue départemental du Maine-et-Loire, dans la ville d'Angers. Et à eux deux, ils m'ont proposé cette charpente qui m'a tout de suite plu. Et donc, je me suis penché là-dessus. Le comble se trouve donc derrière la salle des pas perdus, le secteur nord-est. Plus précisément, donc c'est un corps de bâtiment qui abritait à l'époque du palais de justice des bureaux d'avocats. Et donc il est perpendiculaire à la salle des pas perdus. Et la charpente se pose contre la salle des pas perdus. Pas exactement, mais c'est l'idée. Le secteur nord-est, comme je l'ai dit, a été étudié intégralement en archéologie du bâti par la société Atemporel. Le système de la charpente est à chevron formant ferme, comme l'a dit Victor, c'est un terme qui a été inventé par Viollet-le-Duc à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, on utilise plutôt le terme de chevron porteur, puisqu'on a tendance en charpenterie à utiliser pour les pièces le nom de leur fonction. Et comme dans ce système, le chevron est porteur de toute la toiture, on préférera le terme de chevron porteur. Le chevron formant ferme, sans rentrer forcément dans les détails spécifiques, il s'agit en fait d'un système qui comprend donc plusieurs fermes qui se succèdent sur toute la longueur du comble. Une ferme, c'est la plus petite unité en fait dans le comble. Elle va comprendre en fait deux pièces obliques qui s'appellent les chevrons, et puis plusieurs pièces horizontales, dans mon cas deux, des entrées. Donc un entrée principale et un entrée retroussée sur un étage en fait. Et après, on a plusieurs autres pièces, donc des jambes de force et des esseliers qui viennent raidir le tout. Et chaque ferme est divisée en fermes principales et fermes secondaires, et elles sont reliées par des contreventements. La méthode de relevé, donc, qui était mon principal but cette année, le palais donc doit fermer dans quelques temps, et donc du coup il fallait que je fasse ce travail de terrain. Pour cela, donc, j'ai pris des points géoréférencés avec un niveau archéologique et puis après avec un niveau à eau, puisque comme je l'ai dit, c'est un espace de bureau, donc il y a beaucoup de murs. Et donc il a fallu tirer des axes droits et reporter les points derrière les murs. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à relever, puisque le comble fait à peu près 10 mètres. Et je suis parti sur la problématique de la charpente remaniée, puisque on s'est rendu compte le terrain, donc la charpente est coupée en deux, une partie homogène, une partie hétérogène. Comme l'a dit Victor, donc l'intérêt d'une charpente, c'est aussi de la comprendre avec la maçonnerie, avec les maçonneries, puisque pour avoir une étude complète d'un bâtiment, il faut l'étudier de la cave au comble. Et donc le lien avec les maçonneries est essentiel. En ce qui me concerne, accolé à la salle des pas perdus, il y a une cage d'escalier qui pose beaucoup de questions quant aux problèmes techniques qu'elle engendre sur la charpente. Et donc du coup, ce sera principalement ce que je ferai l'année prochaine, donc étudier les liens entre la charpente et les murs. Pour finir, donc, comme l'a dit Victor, on peut affiner une étude typologique faite grâce au relevé de marque, au relevé des pièces, par une étude dendrochronologique qui consiste à prélever un morceau de bois et de mesurer des cernes et de comparer cette mesure de CERN avec des grands référentiels à l'échelle nationale ou locale pour avoir une datation très spécifique de certains bois d'une charpente qui permettent d'avoir une idée plus fine du façage qui est l'intérêt principal d'une étude archéologique.
Merci beaucoup Samuel pour cette présentation. Tu as au début de ta présentation évoqué des études préalables réalisées par la société Atemporel. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu inclus ces études dans la tienne pour en tirer un maximum ?
Alors donc comme je l'ai dit, effectivement, pour avoir une étude complète d'un bâtiment, il faut l'étudier de la cave au comble. Et donc du coup, c'est vrai que les études de bâti n'incluent pas forcément les études de charpente. Et donc du coup, je m'inclus dans cette première étude de bâti qui est très complète, donc comme je l'ai dit, et donc qui permet en fait d'avoir une idée très précise du phasage des murs qui soutiennent la charpente. Une autre chose que j'aimerais faire, c'est une cartographie précise pour pouvoir décortiquer en fait chaque niveau du bâtiment et pour avoir vraiment une idée de comment fonctionne la charpente avec la maçonnerie.
Et donc, tu expliquais que tu n'allais pas t'appuyer uniquement sur les études d'Atemporel, notamment l'année prochaine, sur d'autres types de documentation. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui sera utile pour toi en termes de documentation pour ta recherche ?
Donc, du coup, comme l'a dit Victor, l'étude de bâti, en étude de bâti, en fait, on jongle entre les données de terrain et puis les données de documentation. J'utilise effectivement, comme il a dit, les glossaires des compagnons passants charpentiers, les traités de charpenterie aussi, et puis les comptes de construction, qui sont des vraies mines d'informations pour savoir les matériaux utilisés, les artisans, et ça donne des dates qui sont très intéressantes pour comprendre le phasage du site. Et puis une autre étude qui m'intéresse, c'est l'étude d'architrave qui a été faite. La personne qui l'a faite a détaillé vraiment toutes les phases de construction en fonction des bâtiments. Et donc, du coup, c'est également une mine d'informations très intéressante.
Et enfin, dernière petite question avant de conclure. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un programme collectif de recherche et comment est-ce que tu t'inclus dans ce programme de recherche ?
Oui, donc effectivement, il y a un programme de recherche qui a été qui est dirigé par Nicolas Proto et Claude André-Schmidt depuis 2019 et le rachat du palais par la ville de Poitiers. Ce programme collectif de recherche a donné beaucoup de documentation archéologique et historique, et notamment deux mémoires, l'un par Damien Strezeleski sur l'occupation et l'articulation des pouvoirs au palais de Poitiers au Moyen-Âge, entre 1240 et la fin du XVe siècle, et celui d'Héloïse Dupin sur la mise en œuvre de la pierre sur le chantier de la tour Montbergeon, tous les deux dirigés par Nicolas Proto. Et donc ça va me permettre d'avoir beaucoup d'informations sur les sources historiques en particulier. Et puis voilà, c'est comme ça que j'aimerais bien être inclus dans ce projet collectif de recherche.
Merci beaucoup Samuel. Et pour conclure, je voudrais vous remercier tous les deux, Victor et Samuel, pour votre investissement et vos présentations toutes les deux claires sur un sujet qui n'est pas simple, la charpente, l'étude des charpentes médiévales et modernes. Et je vous dis à bientôt, pourquoi pas, et je remercie les auditeurs pour leur écoute. Et je vous dis rendez-vous dans une prochaine émission.